Vous écoutez, on lit pour vous.
Laval compte abolir sa politique d'art public. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 17 décembre 2025 dans Le Devoir. La ville de Laval a voulu abandonner en catimini sa politique municipale d'intégration de l'art public aux bâtiments et sites municipaux. Un courriel anonyme a alerté Le Devoir et les milieux artistiques de la ville. Ces derniers n'ont pas été consultés à ce sujet, ni prévenus de cette recommandation. À l'ordre du jour de la séance du comité exécutif de la ville du 17 décembre, le point 60 entend recommander au conseil d'abolir cette politique lancée en 2021. Certains y voient un recul pour le développement culturel de Laval, qui s'est accéléré dans la dernière décennie. D'autres attendront le dépôt prochain du budget de la culture pour se prononcer. Pour l'exercice budgétaire 2026, la ville de Laval a dû faire des choix difficiles, confirme Caroline L. Gagnon, conseillère en affaires publiques pour la ville. Mettre fin à la politique municipale d'intégration de l'art public ne remet aucunement en question l'importance de l'intégration d'œuvres d'art aux infrastructures lavalloises, poursuit Mme Gagnon. Le geste viserait plutôt à revoir les mécanismes en place à la lumière de la situation financière actuelle et à permettre davantage de flexibilité. Lors de son adoption en 2021, cette politique avait été bien accueillie. Elle prévoit d'accorder 1,75% du budget des projets financés par la ville d'au moins 1 million de dollars à l'acquisition et à l'intégration d'œuvres artistiques dans tous les bâtiments et sites municipaux ouverts au public. C'était une mesure plus ambitieuse que celle de Québec, communément appelée « politique du 1 %». Or, la hausse marquée des coûts des infrastructures et le contexte budgétaire exigent que la ville revoie ses façons de faire, a indiqué le cabinet du maire de Laval, Stéphane Boyer, réélu pour un deuxième mandat en novembre 2025. L'objectif n'est pas de freiner la création, mais de se doter d'un cadre plus flexible, en dialogue avec le milieu culturel, ajoute le cabinet. Culture Laval, qui regroupe tous les acteurs culturels de la troisième ville du Québec, n'a toutefois pas été consultée et elle a dû demander une rencontre d'urgence mardi avec le cabinet. « On est réceptif à leur analyse », a résumé ensuite la présidente Christine Huard. « On nous dit que les engagements pris en culture pour 2025-2026 seront maintenus. On attend le prochain dévoilement du budget avant de se positionner. » Absorber le coût des chantiers, abolir celui des œuvres. Après cette rencontre où le maire n'était pas présent, Culture Laval a fait le point par courriel auprès de certains de ses membres. La ville jugeait la politique contraignante pour certains gros projets d'infrastructure à court et moyen terme, y lit-on. Comme pour le projet de rénovation de l'usine d'épuration La Pinière, dont le coût est maintenant évalué à 300 millions de dollars. Ce projet, donné comme exemple, est pourtant sur la table de la ville depuis une décennie, soit bien avant que Laval adopte sa politique d'intégration de l'art public. Avec le coût des matériaux qui ne cesse d'augmenter, il n'aurait pas pu répondre aux exigences de la politique sans plomber le budget de construction et par le fait même augmenter le fardeau financier des citoyens, poursuit Culture Laval. La ville veut prendre un pas de recul. Ceci étant, ils nous ont dit que le budget de la ville en culture allait être bonifié en 2026, indique-t-on encore dans le courriel. L'art partout. Charlotte Panaccio-Letendre est directrice générale et artistique de Vertical, centre d'artistes depuis 15 ans. Pour elle, retirer cette politique est un recul. Sa force était de garantir l'ajout d'œuvres dans tous les bâtiments, non pas seulement ceux à usage culturel. « Comme dans une caserne de pompiers », a-t-elle illustré, avant que l'exemple de la Pinière ne soit porté par la ville. « Pour moi, c'est là que c'est important d'agir, car c'est lorsque l'art s'étend hors des lieux qui lui sont destinés qu'une plus grande familiarisation du public aux œuvres et à l'art se développe. Depuis l'adoption de sa politique, Laval a intégré 34 nouvelles œuvres à ses infrastructures. Auparavant, la collection municipale en comptait 50. 4 autres œuvres sont prévues pour une installation en 2026, dont 2 pour l'épicentre culturel. Laval assure qu'elles seront maintenues. Ironie de l'ordre du jour, le Conseil doit aussi voter mercredi, juste après l'abolition de la politique, le contrat d'exécution pour l'œuvre de l'artiste Richard Purdy, qui sera intégré à l'épicentre culturel dans le cadre de la politique d'art public. Déprofessionnaliser. Pour le regroupement des centres d'artistes auto-gérés du Québec, RCAAQ, remettre ce genre de politique en question réduit les perspectives et les conditions de travail des artistes et appauvrit l'expérience quotidienne des citoyens. Si la Ville de Laval choisit d'aller de l'avant et de repenser sa politique d'art public, la concertation avec le milieu artistique sera d'une nécessité primordiale afin d'assurer des processus justes, transparents et réellement adaptés aux réalités des pratiques d'art d'aujourd'hui, estime la directrice générale du RCAAQ, Catherine Bodmer. Le regroupement des artistes en arts visuels, RAAV, se positionne de son côté fermement contre le retrait de la politique d'art public de Laval. Depuis plusieurs années, nous sommes préoccupés de voir certaines municipalités affaiblir leur politique d'art public au détriment des artistes et des principes de saine gouvernance, parfois pour favoriser des partenariats commerciaux. Ces glissements contribuent à banaliser l'expertise artistique, à contourner les mécanismes d'évaluation par les pairs et à rendre le processus plus opaque, comme le prévoit sa directrice générale, Camille Cazin. De plus, les contrats en art public représentent une source de revenus non négligeable pour les artistes professionnels, rappelle le RAAV. C'était « Laval compte abolir sa politique d'art public », un texte de Catherine Lalonde, paru le 17 décembre 2025 dans Le Devoir.
Rien à envier à la classe mondiale. Extrait d'un texte de William Thériault, paru le 16 septembre 2025 dans La Presse. Alex Raté témoigne, citation, « J'ai fait New York, Copenhague, Barcelone. Ce qui me frappe tout le temps, c'est qu'on n'a rien à envier à ces grands événements dans le monde. Montréal a sa place dans le calendrier et une belle notoriété au niveau international. » Fin de citation. Alex Raté ne fait pas qu'organiser le marathon Bénéva de Montréal. Directeur général de Courons Montréal, il est lui-même un coureur aguerri qui survole la mythique distance des 42,2 km un peu partout sur la planète, parfois même au sein du circuit Abbott World Majors. Citation, c'est un mélange de fébrilité, d'excitation et de nervosité. Fin de citation, lance-t-il. Au total, en 2025, 32 500 coureurs et coureuses ont pris le départ sur 3 jours à Montréal. C'est une augmentation de 20 % en participation par rapport à 2024. Citation, l'engouement de la course n'a jamais été aussi important, aussi populaire. Fin de citation, selon Alex Raté. Après tout, les inscriptions ont affiché complet dans chacune des distances en 2025. Mais attention, la course à pied monte en popularité et c'est quelque chose de bien. Mais, comme l'ont montré plusieurs reportages dans les médias en 2025, il est possible d'y aller trop fort, trop vite. L'application Strava, par exemple, qui comptabilise les performances sportives, peut autant être un motivateur qu'un outil anxiogène pour certains. Et avec la culture des réseaux sociaux, certains se mettent à courir, s'inscrivent à un marathon pour cocher une case avant de frapper un mur. Citation. Souvent, les gens qui font ça vont se blesser, vivre le pire moment de leur vie. Ils vont avoir un reality check. Puis, ils vont changer leur approche, adopter un plan structuré, prendre un coach. ils vont commencer à s'entourer et prendre la course plus au sérieux. Ils se rendent compte que c'est compliqué courir un marathon. Fin de citation, lance-t-il avec une pointe d'ironie. Citation. Donc, pense toujours à la raison pour laquelle tu cours. Fais en sorte que tu te fasses un plan et que tu atteignes tes objectifs. Fin de citation, conseille-t-il. Attraction internationale. Citation. Montréal a un pouvoir attractif que peu de villes ont, insiste Alex Raté. Durant la fin de semaine de la course, tu peux venir courir un marathon, aller voir un match du CF Montréal, manger dans de super bons restaurants. En plus, la communauté de course organise une panoplie d'événements. Je pense que c'est ce qui fait rayonner Montréal à l'international. Fin de citation. Dans les commentaires des participants, l'ambiance revient bien souvent. Avec l'aspect vendeur de la métropole, c'est pourquoi le marathon Beneva de Montréal constitue aujourd'hui la grand-messe de la course à pied dans la province. Alex Raté dit, citation, « Quand on demande à un coureur « C'est quoi ta prochaine course ?» Peu importe le moment de l'année, c'est Montréal. » Fin de citation. Bien que le marathon en soit à sa 33e présentation cette année, c'est la 4e du groupe Courons Montréal. Pour l'instant, les promoteurs ont été heureux de, citation, « donner le marathon aux Québécois et aux Montréalais ». Fin de citation. De fait, 80% des coureurs venaient de Montréal ou de la périphérie, 10% d'ailleurs au Québec et les 10% restants provenaient de l'étranger. Sur ce dernier volet, Alex Raté nous parle d'un plan de développement sur 5 ans qui, citation, « ira chercher une croissance internationale ». Fin de citation. Quant à l'édition suivante en 2026, elle sera déplacée de sa case habituelle en raison des championnats du monde de cyclisme sur route UCI qui sont prévus du 20 au 27 septembre 2026. Les coureurs et coureuses devront donc patienter jusqu'au week-end du 9 au 11 octobre 2026. Citation. Pour un marathon, c'est génial. Les températures d'octobre sont superbes. Aussi, on a vraiment fait attention de ne pas empiéter sur les marathons du Petit Train du Nord et de Québec. Fin de citation, qui se déroule normalement la première fin de semaine du mois, précise-t-il. C'était « Rien à envier à la classe mondiale », extrait d'un texte de William Thériault, paru le 16 septembre 2025 dans La Presse.
La presse du 11 janvier 2026 consacre un dossier à l'intelligence artificielle. Sous le titre « Salutaire ou catastrophique, l'intelligence artificielle », en sous-titre « C'est désormais clair, l'intelligence artificielle est en train de changer le monde ». Mais un peu plus de 3 ans après l'arrivée de ChatGPT, on ignore toujours si ce sera pour le mieux ou pour le pire. Que nous réserve l'intelligence artificielle d'ici 5 ans? Dans ce dossier, nous explorons un scénario où ces outils conduisent l'humanité au bord de l'extinction et un autre où ils contribuent à sauver le monde. Puis, nous verrons comment faire, pencher la balance du bon côté. Ce dossier est composé de 3 textes dont nous entamons la lecture du premier, sous le titre « Formidable ». L'intelligence artificielle est là. Texte signé Philippe Mercure et Alexandre Sirois. Nouveaux médicaments, nouveaux matériaux, réduction des gaz à effet de serre, agriculture plus performante, entreprise plus productive. Et si l'intelligence artificielle nous aidait à affronter les grands défis de l'humanité? Plonger dans un scénario optimiste où l'intelligence artificielle nous fait réaliser un bond en avant. Citation. C'est sûr, créer une vidéo de chat qui danse la Macarena, ce n'est pas la chose la plus utile. Mais on apprend encore à apprivoiser ces outils. Et si on réussit à diriger l'attention vers de vrais enjeux, je pense qu'il va vraiment y avoir un impact positif. Fin de citation. Celle qui parle s'appelle Sophie Falaha. Elle est directrice générale du Centre d'expertise internationale de Montréal en intelligence artificielle, le CEIMIA. La mission de l'organisme, utiliser l'intelligence artificielle pour, citation, le bénéfice de l'humanité, fin de citation. Le Centre international de Montréal met en lien des chercheurs avec des gouvernements ou des entreprises qui ont des problèmes à régler. Un exemple, le CEIMA a participé à un projet destiné à mieux répondre aux mouvements migratoires dans le bassin du lac Tchad, en Afrique. Souvent provoqués par les changements climatiques, ces déplacements sont complexes à gérer puisque plusieurs pays sont impliqués. Citation. L'idée est de détecter les premiers mouvements de population afin d'anticiper les mouvements migratoires et informer les gouvernements et les acteurs d'aide humanitaire pour que les ressources soient distribuées aux bons endroits. Illustre Sophie Fallard. Fin de citation. De concert avec le Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, qui regroupe des organismes de nombreux pays, le CIMA s'est aussi penché sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la lutte contre les changements climatiques. Améliorer les prévisions climatiques, mieux gérer les réseaux électriques, prédire la demande pour les transports en commun afin d'adapter l'offre. Les possibilités sont nombreuses. Citation, on peut rêver d'une agriculture de précision qui permet de donner exactement la bonne quantité d'eau et de nutriments aux cultures, réduisant ainsi l'usage des pesticides. Fin de citation, illustre Sophie Fallard, qui estime que l'intelligence artificielle pourrait aider les pays en voie de développement à mieux gérer leurs ressources et combler le fossé avec les pays développés. Oui, l'intelligence artificielle génère des impacts environnementaux importants, et Sophie Fallard estime qu'il est primordial de se pencher sur la question. Mais elle croit qu'on en viendra à concevoir des systèmes plus petits et plus spécialisés, et donc plus sobres en énergie. Citation. Je suis réaliste. Il y a des enjeux. Il faut avancer de manière responsable. Mais je vois une accélération des solutions positives. Fin de citation. Sophie Fallard. Autre citation, je dirais qu'il n'y a pratiquement pas de limite. Le potentiel existe dans tous les domaines où on a besoin de nouveaux matériaux et ils sont nombreux. Fin de citation. Ala Anna, Alas, est professeure associée à l'Institut de la matière quantique Steward Blossom de l'Université de la Colombie-Britannique. Son boulot? Inventer de nouveaux matériaux pour toutes sortes d'applications. Depuis environ un an, la professeure utilise l'intelligence artificielle pour y parvenir, et elle est soufflée par son potentiel. La spécialiste explique que pour créer un matériau, les scientifiques ont accès à une soixantaine d'éléments stables et sûrs du tableau périodique : fer, carbone, chrome, cuivre, zinc, magnésium et autres. Citation, on peut en combiner plusieurs à raison de n'importe quel ratio, et on peut le faire dans n'importe quelle condition, appliquer de la pression, chauffer, etc. Les possibilités sont infinies, explique-t-elle, fin de citation. Un humain s'y perd. Mais l'intelligence artificielle permet d'explorer ses possibilités et de prédire les propriétés des matériaux ainsi inventés, une tâche actuellement très difficile. Citation. Souvent, on n'a pas le choix de fabriquer le matériau et de le tester, dit Alana Alas. On peut même demander au modèle d'utiliser seulement des éléments qui ne sont pas problématiques d'un point de vue géopolitique ou éthique, illustre la spécialiste, fin de citation, dont l'équipe travaille à développer de meilleurs matériaux pour les batteries de voitures électriques et des appareils électroniques. Citation, on commence à peine à utiliser l'intelligence artificielle et j'ai vraiment l'impression que ça va s'améliorer. La technologie sera plus accessible. Avec tous les chercheurs dans le monde qui travaillent sur les matériaux, Le potentiel est énorme. Fin de citation. Alana Alas. L'intelligence artificielle promet aussi de bouleverser le monde des entreprises, et les impacts se font sentir jusque dans les pommes de terre. Citation. Les gens pensent que des patates, c'est juste des patates. Mais c'est plus compliqué que ça, dit José Petitclair, responsable du marketing et de l'amélioration continue chez Patates Dolbecq. L'entreprise de Saint-Ubal, dans la région de Portneuf, produit 55 millions de kilogrammes de pommes de terre chaque année. Des pommes de terre qui viennent en une myriade de variétés, de tailles et de formes. Patates Dolbecq s'est doté d'un système qui pèse et filme chaque pomme de terre. Un système d'intelligence artificielle détermine ensuite si elle doit être envoyée à l'épicerie, au restaurant ou chez un transformateur. Citation. Les restaurants veulent des patates de la même grosseur parce que c'est plus simple à cuire, explique Mme Petitclair. Le transformateur, lui, peut dire « ça ne me dérange pas d'avoir un peu de tache argentée ». Fin de citation. L'intelligence artificielle a fait passer de 16 à 4 le nombre de trieurs de patates par quart de travail sans provoquer de perte d'emploi. Citation. Les gens sont encore chez nous, mais ils se consacrent maintenant à des tâches plus intéressantes, dit Mme Petitclair, qui voit un potentiel immense pour le futur. On va continuer avec l'intelligence artificielle, jure-t-elle. C'est très positif. Fin de citation. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres et il semble clair que le monde du travail est entré dans une révolution qui va prendre de l'ampleur au cours des 5 prochaines années, tout comme celui de la santé d'ailleurs. Il suffit de parler avec des chercheurs comme le français Jean-Philippe Vert pour s'en convaincre. Ce dernier a cofondé la société Bioptimus il y a 2 ans dans le but de révolutionner la biologie avec l'intelligence artificielle. Il nourrit à ce sujet de grandes ambitions. Citation. Il y a beaucoup de données qui sont générées par chaque patient. On fait des prises de sang, des analyses plus poussées, de l'imagerie et parfois de la génomique. Et clairement, l'intelligence artificielle apporte un super pouvoir pour analyser ces données et permettre d'identifier des signaux qui diraient qu'on devrait donner tel médicament à tel patient ou lui faire passer tel autre examen, etc. Fin de citation. Jean-Philippe Vert. L'intelligence artificielle en médecine peut déjà contribuer à améliorer les diagnostics et les décisions prises par les professionnels de la santé. Et ce potentiel va croître au fil des ans, des développements de l'intelligence artificielle et des avancées dans ce domaine. Mais les espoirs de Jean-Philippe Vert vont encore plus loin. Citation, la grosse chose, la plus ambitieuse scientifiquement qu'on vise, c'est fournir aux chercheurs de nouveaux outils qui leur permettent de mieux comprendre la cause des maladies et comment les traiter. Donc, intervenir un peu plus avant en amont, mais vraiment pour aboutir à une nouvelle manière de faire de la biologie. Fin de citation. C'est exactement ce que souhaite Diego Di Bernardo, professeur de génie biomédical à l'Université de Naples, Frédéric II, qui travaille depuis une 20aine d'années à l'Institut Téléthon de génétique et de médecine, où nous l'avons joint. Ce centre de recherche italien est voué à la compréhension des mécanismes moléculaires des maladies génétiques rares et au développement de traitements pour celles-ci. Dans son domaine précis, l'intelligence artificielle est déjà en train d'accélérer les découvertes, tout particulièrement depuis qu'un modèle d'intelligence artificielle développé par Google DeepMind, AlphaFold, s'est montré capable de prédire la structure des molécules. Un pas en avant spectaculaire qui a valu aux chercheurs impliqués, Demis Hassabis et John Jumper, le prix Nobel de chimie en 2024. Citation, « La forme d'une protéine, c'est sa fonction », explique Diego Di Bernardo. « C'est un peu comme une roue qui tourne parce qu'elle est ronde », explique-t-il. Le problème a toujours été de tenter de découvrir la forme. On utilisait, par exemple, la cristallographie au rayon X pour y parvenir, mais c'était un processus extrêmement lent et complexe qui ne fonctionnait pas pour la majorité des protéines. Fin de citation. L'intelligence artificielle change la donne et permet d'espérer des applications concrètes pour le traitement de diverses maladies. Citation. Si on connaît la forme, on peut utiliser des outils informatiques bien connus pour concevoir de petites molécules qui viennent se loger dans la protéine pour bloquer une fonction, comme mettre un bâton dans une roue. Et ça a un grand impact sur la fabrication de médicaments parce qu'on peut en créer qui interagissent avec une protéine dont on connaît la forme. Fin de citation. Diego Di Bernardo. Ses travaux n'ont pas encore permis de guérir de maladies dans la foulée de ses progrès, mais Diego Di Bernardo est persuadé que d'ici 3 à 5 ans, il y aurait, citation, « des essais cliniques en cours », fin de citation. Car on assiste carrément à une révolution dans ce secteur de la recherche médicale. Il cite, par exemple, les travaux de David Baker à Seattle, qui a aussi fait partie des lauréats du Nobel de chimie en 2024, citation, « qui a conçu une protéine capable de reconnaître et de bloquer les toxines de plusieurs venins de serpents à l'aide de l'intelligence artificielle », fin de citation. Peut-on rêver et penser qu'un jour, on pourra se débarrasser pour toujours d'une maladie comme le cancer? Citation. Il y a certains types de cancers que nous pouvons déjà réellement guérir aujourd'hui, fait-il remarquer. Mais pour vraiment réaliser ce grand rêve, je pense que l'intelligence artificielle devra nous aider, mais c'est un scénario à long terme. Et nous aurons besoin de systèmes bien plus puissants que ceux que nous avons aujourd'hui. Fin de citation. Et fin de ce premier texte du dossier sur l'intelligence artificielle du journal La Presse, titré « Formidable, l'intelligence artificielle est là ». Texte signé Philippe Mercure et Alexandre Sirois, publié dans La Presse du 11 janvier 2026.